France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi d'évoquer et même plus de nous expliquer, de nous rendre peut-être plus familier, je ne dis pas facile, ce texte qui fascine et sonne à toutes les oreilles comme un des sommets de la complexité philosophique, la critique de la faculté de juger par le seul et l'unique Emmanuel Kant.
Le 18 février 1804, il y a 150 ans, mourait à Königsberg, où il était né 80 ans auparavant, le 22 avril 1724, le philosophe Emmanuel Kant. Son père, sellier originaire d'Écosse, et sa mère, protestante presbytérienne, étaient d'une extrême rigidité de mœurs. Jamais, a-t-il dit plus tard, je n'ai vu ni entendu dans la maison paternelle rien qui ne fût d'accord avec l'honnêteté, la décence et la véracité. Cette éducation sévère marqua de son empreinte sa vie. Toute de travail, qui ne fut jamais troublée par aucun incident, et son œuvre, qui, dédaignant toute élégance, traduit avec rudesse l'amour de la sincérité.
Bonjour Michael Fossel.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes philosophe, professeur à l'École Polytechnique. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la nuit, la gauche et les plaisirs, la consolation. Et sur Kant, on a entendu dans cette archive du 9 février 1954 diffusée sur la chaîne nationale cet hommage à Emmanuel Kant. Les termes qui reviennent, c'est travail, rudesse, amour de la sincérité. Est-ce que ça vous convient comme portrait de votre philosophe choisi?
C'est le portrait le plus habituel que l'on fait de lui, c'est-à-dire...
Le plus cliché, quoi.
Le plus cliché, qui correspond à une certaine vérité, celle de quelqu'un qui a eu une vie extrêmement sédentaire, qui a une vie extrêmement réglée, qui n'a pas été, je dirais, dans une intensité biographique, ni même amoureuse très grande, puisqu'on ne lui connaît aucune relation amoureuse, néanmoins, et c'est l'occasion d'ailleurs d'en parler à propos du livre qui fait l'objet de notre rencontre, c'est quelqu'un, ou c'est un philosophe, qui, bien qu'il n'ait jamais ou pratiquement jamais quitté sa ville, Königsberg, a, si l'on peut dire, voyagé sur place, puisque c'est un philosophe dont l'imagination a en quelque sorte tenu lieu d'expérience, et en particulier, puisque dans ce livre, il parle d'esthétique, de voyage, il parle de paysages qu'il n'a pas vus, mais qu'il a imaginé. C'est un philosophe dont le travail, qui effectivement est un travail d'un très grand sérieux, est mis au service ou qui met au service sa raison d'une liberté, d'une émancipation que peut-être il n'a pas voulu vivre, mais dont il a souhaité qu'elle se réalise pour les autres.
Comment vous expliquez d'ailleurs une telle sobriété biographique avec une telle profusion philosophique qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on dit Emmanuel Kant, quand on parle des trois critiques, pure, pratique, de la faculté de juger, ce soit une sorte de sommité écrasante et qu'on ne perçoit pas justement ce qu'il a voulu offrir?
Les philosophes en général n'ont pas une vie de bâton de chaise, c'est assez rare parce que ils sont, les grands philosophes j'entends, ils sont concentrés sur, je dirais, une vitalité de la pensée ou des événements de pensée. Et Kant est particulier, est un très bon exemple parce que Kant devient kantien sur le tard. Il est un motif d'espérance pour tous les philosophes puisque finalement il a enseigné la philosophie, une philosophie qui était dominante à l'époque où il écrivait, disons une sorte de métaphysique un peu scolastique qui trouvait son origine chez le philosophe Leibniz, un peu technique et puis qui associait beaucoup de choses, disons, à la connaissance de Dieu. Il a enseigné ce type de philosophie, tout en la modifiant un peu, pendant les 20, 25 ou 30 même premières années de son travail.
Donc de 20 à 50 ans, 25 ans
de
à 55
20
à, ans.
Effectivement, jusqu'à 50 ans, puisqu'il naît en 1724 et qu'il écrit son premier grand livre, alors qu'ancien, critique, la critique de la raison pure, en 1724. 81. Mmh. Alors, il y a certainement deux régimes chez, c'est ça qui est très intéressant, deux régimes de vie intellectuelle chez lui. Il y a certainement un régime de vie intellectuelle. Évidemment, on ne peut faire que des hypothèses relativement bourgeois ou calmes, qui est celui de sa première période de sa vie professionnelle. Et alors, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il devient kantien, je le dis sur le tard, à pratiquement 60 ans. Et alors, entre 1780 et 1790, mmh. en revanche, donc en 9 ans, en moins de 10 ans, il va écrire pas moins de 3 chefs-d'œuvre fondamentaux de la philosophie, et d'ailleurs davantage, mais enfin essentiellement 3, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, et puis celle dont nous allons parler plus particulièrement, la critique de la faculté de juger. Autrement dit, en 10 ans, il a d'une certaine manière révolutionné la philosophie et révolutionné sa propre révolution. C'est-à-dire, il a fait une révolution intérieure qui va l'amener à devenir le philosophe que nous connaissons au moins par réputation, un philosophe original, je veux dire. Il l'est devenu sur le tard, mais au moment où il l'est devenu, je dirais, ça ne s'arrête plus, puisque le livre dont nous allons parler, la troisième critique, la critique de la faculté de juger, n'était pas prévu dans son plan initial.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Et alors ça, c'est quelque chose qui relèverait certainement de ce à quoi je ne peux que me référer nominalement, c'est-à-dire qu'est-ce que devient un génie qui tout d'un coup est pris par une intensité philosophique que lui-même n'avait certainement pas prévu. Qu'est-ce qu'il se met, je dirais, à voir qu'il n'avait pas vu avant, que l'on n'avait d'ailleurs pas vu avant, quant à ce que c'est que la connaissance, la morale, on le verra aussi, le beau ou le vivant, et qui, à partir du moment où il trouve une clé de déchiffrement, une méthode, en quelque sorte, pour interroger à la fois le sujet et l'objet, pour interroger le monde et la manière dont nous le connaissons, eh bien, cette clé, qu'il appellera la clé transcendantale, on définira sans doute, mais cette clé, cette méthode, la méthode kantienne, va lui ouvrir des champs de réflexion, d'interrogation qui sont quasiment, je dirais, infinies, en tout cas, qui vont qu'en une dizaine d'années, il va rédiger, en plus même de ses 3 critiques, 3 ou 4 livres qui transforment
le monde. La métaphysique des mœurs, par exemple.
La métaphysique des mœurs, la religion dans les limites de la simple raison, des
textes tous ceux qu'on étudie, qu'on a retenu finalement.
Qu'on a retenu et qui, dans une décennie ou à peine davantage, vont marquer l'histoire de la philosophie pour toujours. On dit, bon, qu'est-ce que c'est qu'un... Ça renvoie un peu aussi à l'idée, qu'est-ce que c'est que l'œuvre qui a changé votre vie. C'est en tous les cas une œuvre qui a marqué l'histoire de la philosophie et de manière beaucoup plus modeste ma propre existence. C'est une œuvre, c'est non seulement une œuvre qui va changer vos manières de penser, mais qui fait aussi que vous ne pourrez plus jamais penser, non pas différemment, mais penser comme vous pensiez avant. C'est bien d'ailleurs l'image kantienne de la révolution. La révolution, c'est une révolution chez Kant de la manière de penser. Et ce n'est pas un hasard, c'est aussi un des éléments très intéressants de la critique de la faculté de juger. C'est que Kant a accompli une révolution dans la manière de penser, l'a formulée de lui en 1781, mais qu'il fait sa troisième révolution, si j'ose dire, en 1790, en publiant la critique de la faculté de juger. Et entre les deux, entre 1781 et 1790, il y a eu une révolution que Kant a, une véritable révolution politique, la révolution française, à laquelle Kant est resté fidèle jusqu'au bout.
Alors, vous avez parlé de clé transcendantale. Vous avez dit que Kant était devenu kantien sur le tard. Alors, on peut se demander effectivement s'il n'y a pas de traces biographiques. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Est-ce qu'il a pris des notes? Est-ce qu'il a travaillé? On se demande vraiment comment a eu lieu le déclic pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être kantien, Michael Fossel?
Alors, on peut dire, on peut dater, en tout cas, sinon dater, on peut en tout cas préciser qu'est-ce qui a été le déclic. Et bon, il le présente de diverses manières, mais toujours avec une même formule. Il dit qu'il a été réveillé de son sommeil. Oui. Dogmatique. Son sommeil, c'est un éveillé, c'est un woke, si j'ose dire. Bon. C'est-à-dire qu'il a été à un moment précisément où il, d'une certaine manière, j'exagère, mais répétait le savoir dominant à l'époque, qui était un savoir très optimiste, d'ailleurs, sur le fait que la science, pour le dire vite, la science newtonienne, en l'occurrence, nous ouvrait la voie vers la connaissance même de ce qui ontologique de l'être. Bon. Eh bien, il a expliqué qu'il avait été réveillé de son sommeil dogmatique par divers voies, mais pour n'en citer qu'une, par la lecture de Hume, de l'empirisme, c'est-à-dire d'une remise en cause sceptique de la possibilité qu'a l'homme de connaître l'essence des choses, pour le dire très rapidement.
De tout connaître, et même et grâce à la science.
De tout connaître, et puis la nécessité pour l'empiriste d'en rester au degré de l'expérience, de la perception sensible. Alors Kant, c'est quelqu'un qui, précisément, du coup, confronté à quelque chose qui est à une thèse qui est en contradiction totale avec celle qu'il épousait jusque-là, va tenter de ne pas en rester à cette déception, au fond, par rapport à la connaissance de l'être, à essayer de reconstruire le savoir, de redonner à la connaissance, de redonner au savoir une assise ferme. Et c'est là où il emploie cette formule, enfin, ou plutôt il forge ce concept de, enfin, il le forge pas, il en hérite, mais il en change le sens de transcendantal. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie transcendantale, pour le dire très vite? C'est une philosophie qui ne se pose pas la question, c'est ça la critique, qui ne se pose pas la question de savoir ce que sont les choses directement, hein, quelle est l'essence du monde, quelle est l'essence de l'âme. C'est une philosophie qui s'interroge sur les conditions de possibilité de notre connaissance des choses. Quand on parle de Kant, on pense souvent à l'image de la révolution copernicienne, c'est-à-dire on passe au sujet, hein, c'est le sujet, on interroge le sujet et non pas l'objet. Kant, c'est quelqu'un qui fait un pas en retrait par rapport à toutes les sciences qui prétendent savoir ce que sont les choses, la matière par exemple pour la physique, le vivant pour la biologie, et qui se pose la question de savoir à quelles conditions pouvons-nous être certains d'avoir affaire à une connaissance certaine. Et donc c'est cela le geste critique par excellence, en quelque sorte, ne pas immédiatement rentrer sur le terrain du savoir, mais chercher la question des conditions de ce savoir et montrer aussi donc quelles sont ses limites.
Pourquoi cette question des conditions du savoir ne se posait pas en tant que telle avant Michael Fossel? Parce que par exemple, si on retourne aux premiers textes de philosophie, par exemple chez Platon, il y a le fait de connaître les idées et le fait effectivement que les images ne nous procurent pas une connaissance certaine mais sont des croyances, sont des illusions. Donc il y avait une question, une réflexion quand même sur le type de connaissances, celles qui sont fiables, celles qui ne sont pas fiables, une différence entre l'opinion, la croyance, la connaissance. On a déjà en fait cette réflexion-là.
Bien sûr, la philosophie, elle est comme son nom l'indique d'ailleurs, elle est la recherche ou l'amour de la sagesse. Donc il y a toujours en philosophie une réflexion sur ce qui fait que nous devons accéder ou ce qui fait que nous pouvons, pardon, accéder à une certaine vérité. La dialectique chez Platon, ou si on pense à un philosophe beaucoup plus proche de Kant, Descartes, une méthode. Une méthode, c'est-à-dire le méthode, ça vient de méthodos en grec, un chemin vers la vérité. Donc les philosophes sont toujours d'une certaine manière des éducateurs.
La question des essences ne se départit pas de celle des conditions d'y accéder.
Alors, des conditions, justement, je ne sais pas. Disons qu'il y a toujours une réflexion sur ce qui nous permet d'accéder à la vérité. Mais Kant, en tout cas, rompt avec cette espèce de conception métaphysique qui court de Platon à Descartes, avec toutes les distinctions, évidemment, qui s'imposent, parce que, pour lui, au fond, il rompt avec cette espèce d'optimisme que on n'a peut-être pas donné le chemin vers la connaissance de l'être, hein, de l'essence des choses, mais ce chemin existe, d'une certaine manière. Kant, le transcendantal, les conditions de possibilité, cela signifie que la voie vers le savoir est non seulement une voie difficile, une voie étroite, qu'il faut une méthode, mais que peut-être, et d'ailleurs c'est ce qui arrive, elle est aussi une voie qui peut devenir une impasse. En l'occurrence, le résultat de la critique de la raison pure, le premier grand livre kantien de Kant, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible de Dieu, de l'âme, ni même en un sens du monde. Autrement dit, il n'y a pas de connaissance métaphysique, de tout ce qui est au-delà de la physique, au-delà de la nature, ou suprasensible, comme dit Kant, au-delà du sensible. Il n'y a pas de connaissance et aucune méthode, pas même la méthode cartésienne, pas même la méthode platonicienne, ne nous permettra d'y accéder. Pourquoi n'y a-t-il pas de connaissance de ce qui est suprasensible? Bien précisément parce qu'il a montré, alors là on ne peut que l'indiquer rapidement, mais que les conditions de possibilité de la connaissance scientifique sont données dans le sensible ou par le sensible. Autrement dit, nous ne pouvons connaître que des phénomènes. Donc c'est pas la même chose, je dirais, de dire, bien sûr, toute philosophie réfléchit à ces conditions, aux conditions d'accès à la vérité. Mais ça, c'est un point très important. Kant, lui, ne réfléchit pas immédiatement aux conditions d'accès à la vérité. Il réfléchit de manière peut-être plus radicale, que je juge moi plus radicale, aux conditions d'accès, enfin plutôt aux conditions de la philosophie elle-même. La critique, c'est la première fois dans l'histoire de la philosophie, et pas la dernière, où la philosophie elle-même devient synonyme du mot critique. Être philosophe, c'est toujours porter un regard de, en un sens au moins au départ, de soupçon, de doute, alors Descartes avait anticipé en un sens sur le savoir. Ce n'est pas vouloir savoir, c'est vouloir savoir ce que savoir veut dire.
Est-ce qu'il est question de vérité? Avec Kant, justement, voilà, cette question, elle est un petit peu oubliée, parce que finalement, c'est d'abord un questionnement sur la démarche réflexive.
Ben, les occurrences du terme vérité sont nombreuses chez Kant. Un philosophe qui n'utilise pas le terme de vérité, c'est rare, mais elles sont effectivement prudentes, et celle qui est pour moi la plus significative, c'est, je crois, dans la critique de la raison pure, où il dit que le mot vérité est un mot, un peu orgueilleux ou prétentieux, comme on voudra le traduire. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a plus chez Kant, cette espèce de croyances qu'il juge, lui, naïves et même dogmatiques, hein, on y reviendra en parlant de la critique de la faculté de juger, selon laquelle notre savoir des choses est un savoir qui vaut immédiatement pour l'être des choses. Autrement dit, c'est un philosophe qui va, et c'est ça l'activité critique, c'est pas qu'il va renoncer à la vérité, il n'est pas sceptique, il n'est pas relativiste, mais il va, je dirais, pluraliser les sens du mot vérité. Le mot vérité ne prend pas le même sens dans le champ, par exemple, de la connaissance scientifique. Là, il l'appellera plutôt objectivité. Mm-hmm. Dans le champ de la connaissance, si l'on peut dire, morale, où là, il parlera plutôt du devoir. Et dans le champ, qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, par exemple, de l'esthétique, où il ne faut pas dire qu'il y a une vérité du beau, où il n'y a pas de vérité du beau. Il n'y a pas non plus un devoir du beau au sens où le beau se laisserait ramener au bien, le beau ne se laisse ramener ni au bien ni au vrai. Et pourtant, il y a dans le beau, dans le sublime, disons dans le jugement esthétique, dans le rapport esthétique au monde, nous avons un rapport à quelque chose comme un sens, une signification, mais qui n'est pas forcément une vérité au sens où cela relèverait d'une connaissance définitive.
Mais il y a quelque chose de juste, c'est ça. Il y a quelque chose qui nous semble approcher d'une forme de vérité. C'est-à-dire, on se dit, là, on est dans le vrai.
On est dans une forme de certitude de ce que, par exemple, tel paysage ou telle œuvre d'art sont belles ou beaux. Une certitude qui se caractérise néanmoins, ou qui se manifeste d'ailleurs plutôt, sous la forme, qui n'est pas ce que la manifestation de la vérité dans la science, d'un plaisir. Un plaisir esthétique. Autrement dit, quand je dis pluralisation de la vérité, ça veut dire que nous avons le sujet à des rapports au vrai, des rapports à la connaissance qui diffèrent, si je puis dire, selon les types de connaissances qu'il produit. Le scientifique, et ça c'est quelque chose un point sur lequel Kant insiste beaucoup dans la critique de la faculté de juger, entretenir un rapport esthétique avec le monde, pour voir le monde selon sa beauté, sa grandeur, sa sublimité, il faut en un sens cesser d'être savant. Il faut cesser d'être scientifique, c'est-à-dire qu'il faut cesser de vouloir expliquer le phénomène naturel, si c'est un paysage, ou artistique, si c'est une œuvre d'art. L'explication de ce phénomène, quand bien même elle est en droit toujours possible, doit être en quelque sorte neutralisée pour apprendre à voir le monde selon sa beauté et non plus seulement selon ses causes.
Ouais, mais ça, on peut vraiment le critiquer. C'est-à-dire que parfois, on a d'autant plus de plaisir qu'on a une grille de lecture qui est celle d'un scientifique, parce que des effets de compréhension vont nous apporter une forme déjà non seulement de jouissance du savoir, mais aussi de plaisir de comprendre. Revenons à vous, Michael Fossel, mais quand vous avez découvert Kant, je ne sais pas si vous avez commencé par ce livre, La critique de la faculté de juger. Vous avez aussi ce plaisir-là quand vous le lisez.
Bien sûr, il y a
vous
un plaisir.
Vous dites pas, je le lis tout à coup comme un romancier et puis tout à coup comme un philosophe.
Il y a un plaisir de la connaissance, et même d'ailleurs dans la critique de la faculté de juger, dans son introduction, Kant dit à un moment que ce plaisir, disons, que l'on peut avoir, par exemple, l'exemple qu'il prend, lui, c'est une démonstration mathématique, à la réussir ou à la comprendre, à l'intérioriser de telle sorte qu'elle devienne en quelque sorte évidente. Et c'est un plaisir que l'on peut aussi avoir en lisant la critique de la faculté de juger, qui est un texte par ailleurs assez difficile, peut-être pas le plus technique de Kant, mais assez difficile, que tout d'un coup, ce qui jusque-là semblait être un assemblage de mots ou de phrases assez incompréhensibles, on aura peut-être un ou deux exemples, c'est clair. Alors ça, c'est une sorte de plaisir, et Kant précise que c'est peut-être un rêve d'esthétique dans la connaissance. C'est-à-dire que...
J'aime bien ce terme de reste. Un reste d'esthétique.
C'est un peu le terme qui... Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que... Vous touchez quelque chose de juste. Là, pour Kant, c'est vrai qu'il n'y a pas une conception de la vérité qui s'appliquerait à l'art, aussi bien qu'à la connaissance scientifique, aussi bien qu'à la métaphysique, aussi bien qu'à la morale. Néanmoins, il n'y a qu'un seul sujet. C'est-à-dire une seule type de... il y a des facultés dans ce sujet, et que chaque fois qu'il y a une connaissance, certaines facultés, imagination, entendement, entrent en accord. Il y a connaissance quand les facultés s'accordent entre elles, l'imagination et l'entendement, la raison et l'imagination, par exemple. Elles ne s'accordent pas de la même manière pour Kant quand c'est une connaissance scientifique que quand c'est un jugement esthétique, mais ce sont néanmoins les mêmes facultés. Autrement dit, on peut faire l'hypothèse, en quelque sorte, enfin, il l'a fait, lui, à un moment de son œuvre, que même si la plupart du temps, peut-être par répétition, par mécanisme, le fait de toujours refaire le même théorème, nous ne nous retrouvons pas, de manière un peu proustienne, en quelque sorte, nous n'avons plus l'expérience de cette première fois où nous avons découvert la vérité, une vérité sur scientifique. Bon. Mais néanmoins, il y a, encore une fois, oui, un reste subjectif qui pourrait se donner sous la figure, par exemple, d'une sorte sorte d'eureka, comme le dit le découvreur ou l'inventeur, c'est-à-dire que nous avons néanmoins, même dans notre connaissance encore, une forme de rapport esthétique au monde. Et c'est l'une des grandes, d'ailleurs, thèses de la critique de la faculté de juger, que le rapport théorique au monde, le rapport de connaissance, n'épuise absolument pas notre rapport aux choses, aux autres et à la nature.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce texte de Kant ?
J'ai choisi ce texte de Kant
parce que... Et pas un autre d'ailleurs, parce que vous les connaissez tous très bien.
On l'entend. Je les ai beaucoup lus, mais je les lis encore. Alors justement, je les connais très bien. Il y a deux manières de dire qu'un livre, je dirais, enfin pour moi, hein, un livre a changé, disons, votre vie. Enfin, si on prend vie au sens de manière de penser, bien sûr. Bon. Mais bon, quand on en fait son métier, c'est aussi sa vie tout court. Le premier, qui est le plus évident, mais c'est pas celui-là que j'ai répondu, c'est, bon, quel est le premier livre de philo... Enfin, en l'occurrence, si c'est la philosophie que vous avez lue et qui a laissé, pour le coup, encore une fois, un reste ou une trace indélébile. Alors, ce genre de livre, c'est-à-dire le livre, disons, de la révélation, en quelque sorte, il est bon... d'en garder un souvenir, enfin il est bon et ce souvenir est un bon souvenir en général puisqu'il a un peu décidé, même si après on reconstruit ça souvent de manière un peu fantasmatique, mais il a décidé de quelque chose dans votre manière d'envisager, y compris votre vie professionnelle, en tout cas votre manière de voir les choses. Il est parfois moins bon d'y revenir.
Donc ça n'est pas Kant.
Alors pour moi c'est pas Kant, non.
Voilà.
C'est parce que ben, tout simplement ce qui vous a marqué dans certaines conditions, généralement liées à la jeunesse et surtout liées à une certaine forme, s'il s'agit de philosophie, bah simplement si c'est le premier livre ou l'un des premiers qu'on a lu, d'ignorance.
De oui, de naïveté aussi.
De belle naïveté, mais de naïveté quand même. Donc, quand on le relit parfois, on le relit dans l'idée de retrouver cette première fois, mais cela ne fonctionne pas toujours. Ça devient donc quelque chose qui déborde, je dirais, certainement même de l'intime, d'une rencontre. C'est quelque chose de très beau, mais c'est difficile au fond à partager. Et puis, un deuxième type de livre... qui vient en général cette fois-ci non pas la première fois mais la deuxième ou la troisième et en général d'ailleurs
donc l'importance des deuxièmes fois en fait
l'importance des deuxièmes fois parce que c'est la deuxième qu'on peut savoir que c'est qu'il y a eu une première si vous voulez. Alors la deuxième c'est celle qui confirme. Et c'est celle, et là le livre qui, bon si je reprends le titre de votre émission, qui a un souffle de la pensée, mais un souffle qui continue si je puis dire à souffler, c'est celui vers lequel on revient. C'est-à-dire celui qui va, et ça c'est la critique de la faculté de juger en ce qui me concerne, qui d'une certaine manière, comme c'est le dernier, enfin c'est pas le dernier grand livre de Kant, enfin c'est la troisième grande critique, c'est presque le dernier mot de Kant, et pour des raisons qu'on va voir, le dernier mot de Kant c'est un mot d'ouverture, c'est pas un mot disons de clôture, même s'il y a une importance du système chez Kant, et à partir de là c'est un livre... qui nous invite encore aujourd'hui à envisager des questions philosophiques, peut-être que Kant n'aura pas envisagé, mais avec la méthode qu'il nous aura léguée. Autrement dit, moi, quand je reviens à ce livre, que ce soit pour des raisons d'écriture ou des raisons de pédagogie, de cours, eh bien, c'est pas seulement que j'y découvre des choses nouvelles, c'est que d'une certaine manière, j'y retrouve ce que je pourrais, de manière un peu personnelle, la dire comme pourquoi je fais de la philosophie, je fais de la philosophie pour réouvrir le champ du sens, des significations. Et le grand, ce qui est au fond très émouvant chez Kant, c'est que parvenu, parce qu'en 1790, il est déjà dans une certaine forme d'âge, pour l'époque en tout cas, de relatif grand âge, disons 70 ans, qu'il a retrouvé, il a retrouvé pour le coup, lui, une forme de jeunesse, hein, de première fois, de réouvrir le champ, alors même qu'il faut l'indiquer, pour le dire rapidement, la critique de la raison pure traitait de la connaissance de la nature. La critique de la raison pratique, donc 1788, traite de la liberté, la morale. Donc morale, connaissance, liberté, nature. Un philosophe, je dirais, pourrait se reposer sur ses lauriers. À partir de ce moment-là, il a rendu compte des deux grands domaines de l'existence. Eh bien non, Kant va réfléchir, et non seulement réfléchir, mais construire une œuvre entière consacrée à la question suivante, et c'est ça la critique de la faculté de juger. D'abord, comment peut-on jeter un pont sur l'abîme qui sépare la nature et la liberté ? Puisque la nature, c'est le déterminisme, la nature, c'est ce que nous subissons en quelque sorte, la liberté, c'est ce que nous devons faire, mais où ? Dans la nature, dans le monde. Et donc, au fond, c'est, comme dirait Platon, une nouvelle navigation, hein. Il faut reprendre la mer au risque de s'y noyer, et c'est assez admirable que Kant l'ait fait tardivement, mais néanmoins avec une force, une puissance, enfance et puis peut-être même aussi une jeunesse.
Oui, vous l'avez dit, une forme, il a réveillé une sorte d'éveil, en fait.
Absolument, il s'est réveillé plusieurs fois dans sa vie. Il s'est réveillé par rapport au dogme qu'il épousait auparavant, mais il s'est même réveillé, si je puis dire, par rapport à ce que sa propre philosophie nouvellement acquise pourrait avoir au fond de une fois qu'on a séparé la nature et la liberté, voilà, on a fait l'essentiel, parce que la critique de la faculté de juger aussi, à bien des égards, elle revient sur des résultats qu'il avait acquis
Une critique de sa critique.
Ça veut pas dire que ça devient incohérent ou qu'il y a des contradictions, mais il nous met en garde, et c'est la grande valeur de ce livre, il nous met en garde contre ce qui pourrait être un certain dogmatisme, même de la critique, si je puis dire, ou de la rationalité. C'est-à-dire, il nous met en garde dans ce livre, la critique de la faculté de juger, contre le dogmatisme dont il pressent qu'il va s'imposer certainement au XIXe siècle et probablement encore au XXe, et c'est ce qui s'est d'ailleurs produit, c'est le dogmatisme de la vérité scientifique, c'est le scientisme, et au fond la critique de la faculté de juger qui va traiter entre autres choses du beau, c'est aussi, c'est pas que quand tu dis tiens il faut que je parle du beau
parce
oublié l'art et donc il faut que je me rattrape, il l'envisage comme faculté de juger, c'est-à-dire une troisième faculté, ni la raison, ni la connaissance, disons, ni la morale, c'est-à-dire un rapport au monde esthétique ou le rapport au vivant, c'est les deux grands thèmes, on y reviendra du livre, un rapport au monde qui ne se laisse pas réduire à la connaissance. Il y a à l'intérieur du livre, il y a la préface de la critique de la faculté de juger, Kant écrit, je le cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, il faut limiter les prétentions inquiétantes de l'entendement. Les prétentions inquiétantes de l'entendement, l'entendement c'est la faculté de connaître scientifique les choses. Alors moi j'ajoute cette fois-ci prétentions inquiétantes de l'entendement que je n'ai peut-être pas assez souligné dans la critique de la raison pure pourrait laisser en l'état, c'est-à-dire toujours cet effort critique, c'est de revenir sur ses propres pas pour essayer d'expliciter le sens de ces affirmations.
Qu'est-ce qu'on peut connaître, qu'est-ce qu'on ne peut pas connaître, quel type de vérité est en jeu? Ça, c'est des questions très actuelles, d'ailleurs.
C'est des questions très actuelles et qui renvoient en particulier les prétentions inquiétantes de l'entendement. Ce sont les prétentions inquiétantes de notre intelligence, enfin du type d'intelligence que nous avons, à en quelque sorte dire du monde tout ce qu'il y a à en dire. Et c'est la science, mais ce n'est pas seulement la science.
Tout ce qui prétend épuiser une explication univoque du monde.
Voilà, c'est-à-dire la certitude que nous aurions, qui pour le coup est dogmatique, pas critique, selon laquelle nos catégories correspondent automatiquement, spontanément aux choses. En réalité, chez Kant, il y a toujours, en tout cas c'est ce qu'il montre dans la critique de la faculté de juger, il y a des phénomènes dans le monde qui échappent à nos catégories. Et ces deux grands phénomènes qui échappent à nos catégories, en tout cas de l'entendement, enfin d'ailleurs les catégories c'est l'entendement, par exemple à la catégorie de cause, l'explication par les causes mécaniques, ces deux grands phénomènes, c'est ce qui fait l'unité entre eux, ce sont les phénomènes esthétiques, le beau est sans pourquoi, il est sans cause, et le vivant, l'organisme vivant, eh bien, de la même manière, on ne peut pas l'expliquer de manière purement mécanique, c'est-à-dire physique.
On va écouter un extrait de la critique de la faculté de juger, on va voir le style, je pourrais dire, d'une certaine manière, Michael Fossel, et puis vous allez nous faire un petit peu de pédagogie. Écoutez bien, c'est un extrait du paragraphe 29.
La présentation pure et simplement négative de la moralité, telle qu'elle élève l'âme, n'entraîne aucun risque de rendre l'esprit exalté. Exaltation de l'esprit qui est une illusion consistant à vouloir voir quelque chose par-delà toutes les limites de la sensibilité, c'est-à-dire à vouloir rêver d'après des principes, s'abandonner à un délire de la raison. Cela justement parce que la présentation dans la sensibilité n'est que négative. En effet, ce qu'il y a d'insondable dans l'idée de liberté exclut entièrement qu'on adopte la voie d'une présentation positive. La loi morale est en elle-même suffisamment et originairement déterminante en nous, si bien qu'il n'est pas même permis de chercher un principe de détermination en dehors de celle-ci. Si l'enthousiasme doit être comparé à la démence, c'est au délire même qu'il faut comparer l'exaltation de l'esprit. Et c'est un tel délire qui s'accorde le moins avec le sublime, parce que les rêveries creuses qu'il contient le rendent ridicule. Dans l'enthousiasme comme affect, l'imagination est sans frein. Dans l'exaltation de l'esprit, elle est sans règle, comme une passion enracinée et qui couve en nous. Le premier cas correspond à un accident passager, qui parfois peut bien atteindre l'entendement le plus sain. Le second cas correspond à une maladie qui le bouleverse.
Extrait de la critique de la faculté de juger de Kant de 1790, lu par Anaïs Isbert. Nous sommes ici dans la première partie, critique de la faculté de juger esthétique. C'est le paragraphe 29, c'est vous qui l'avez choisi, Michael Fossel. Il va falloir nous l'expliquer. Un mot quand même pour les auditeurs et auditrices. Il y a deux parties dans la critique de la faculté de juger. Il y a donc cette faculté de juger esthétique, puis la faculté de juger téléologique. Alors là, pourquoi un extrait de cette faculté esthétique ?
Alors l'esthétique, donc, c'est ce qui renvoie au beau et aussi à un autre sentiment qui est précisément celui dont il est question ici, même si le terme n'apparaît pas, qui est le sublime. Le sublime se dit...
Si, on l'a. C'est un tel délire qui s'accorde le moins avec le sublime.
Voilà. Alors le sublime, c'est un sentiment paradoxal, puisque c'est un plaisir qui est mêlé à un déplaisir. C'est-à-dire, alors que le beau, lui, est immédiatement, si je puis dire, plaisir. C'est le sentiment que l'on éprouve, par exemple, et c'est cela dont il est surtout question ici, lorsque comme spectateurs, nous voyons, percevons un spectacle naturel particulièrement effrayant, du type ouragan, du type océan dans la tempête, c'est-à-dire le sentiment que nous avons d'abord, donc ça c'est un des plaisirs, de notre petitesse, la petitesse de notre force à l'égard ou en comparaison, si je puis dire, avec la force de la nature. Alors, Kant se pose la question, il n'est pas le premier à le faire, comment se fait-il que nous ayons paradoxalement du plaisir à ressentir aussi ce déplaisir-là. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous attirés, somme toute, par, cela vaudrait aussi pour quelque chose comme certainement des films d'horreur aujourd'hui, nous sommes attirés par ce qui, en premier lieu, devrait au contraire nous effrayer. D'où vient cette exaltation, ou plutôt ce sentiment d'enthousiasme à l'égard de de ce qui nous dépasse, ou de ce qui peut même nous effrayer? La réponse de Kant, c'est que il y a quelque chose en nous, qui est plus puissant que tout ce qui se trouve dans la nature hors de nous. C'est-à-dire plus puissant au sens d'indifférent, d'une certaine manière, c'est un plaisir lié à une certaine surpuissance intérieure, une indifférence intérieure, et cette chose en nous, c'est la liberté. Alors évidemment, il faut pour cela...
Ce qu'il y a d'insondable.
D'insondable.
Dans l'idée, I majuscule.
Insondable, cela veut dire inexplicable. Or, les phénomènes naturels déchaînés, en un sens, ou le déchaînement des phénomènes naturels, sont explicables, si l'on veut, soit par des faits météorologiques, soit aujourd'hui, peut-être, pas sans doute, d'ailleurs, par des causes anthropiques. En tout cas, cela demeure explicable, c'est-à-dire qu'il y a... et donc, on peut d'une certaine manière, je vais un peu plus loin que Kant, mais on peut peut-être aussi les maîtriser d'une certaine manière, même si par ailleurs, par rapport au sujet, ils apparaissent comme tout à fait effrayants. Alors qu'il y a un principe en nous, c'est-à-dire une capacité, un pouvoir en fait, en réalité, une puissance en nous, insondable, inexplicable, si on pouvait l'expliquer, ça ne serait précisément plus la liberté, qui, au fond, et c'est pour cela que nous sommes capables de sublime, en quelque sorte, qui nous révèle que... notre destination morale, notre destination peut-être aussi politique, pratique en tout cas, est supérieure à tout ce qui, dans la nature, nous oblige à agir d'une certaine manière ou nous fait peur. Il y a un au-delà de la peur, qui peut s'appeler le courage de la liberté. Alors, là, dans le passage que nous avons lu, Kant dit plusieurs choses, mais il dit, évidemment, le fait que nous soyons capables de sublime peut aussi mener à une certaine forme d'ivresse négative, un peu dogmatique. C'est toujours la critique, c'est toujours la critique du dogmatisme, le moment où je vais conclure trop vite. Je peux conclure trop vite du fait que, eh bien, ma foi, je ne suis pas mis en danger par ce que j'observe, bien que ce que j'observe soit dangereux. Je peux conclure à l'exaltation de ma propre puissance. Mmh. Hein, le moi dont Pascal avait fait la critique, le moi qui s'impose comme, au fond, une sorte de souveraineté du sujet sur la nature. Ce n'est pas ça que veut dire Kant à propos du sublime. Il veut dire que ce qui est en moi plus grand que la nature, c'est ce que je dois faire. Ce n'est donc pas ma puissance, mon narcissisme, mon égoïsme, mon affirmation à vouloir ou à prétendre être souverain sur la nature. Ce n'est pas, au fond, c'est ça qu'il appelle ou critique sous le mot d'exaltation. C'est au fond une sorte de confusion entre le sujet et Dieu, car après tout, c'est Dieu qui pourrait être au-dessus des phénomènes naturels. En réalité, ce que le plaisir lié au sublime, à regarder ou à contempler ce qui est frais, c'est le plaisir qui est rendu possible par le fait que ce qui est grand dans l'homme est grand au-delà de toute grandeur, fort au-delà de toute puissance. C'est ce que nous devons faire moralement, non pas ce que nous sommes.
Moi, je comprends bien l'idée dans le texte, Michael Fossel, mais enfin, je dis que je comprends bien, je préviens quand même tout de suite que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce texte parce qu'il y a quelque chose avec Kant qui est assez terrible, c'est qu'on a beau regarder le sommaire et donc se reconstituer mentalement la situation du texte dans l'ensemble de son exposé, dès qu'on pense avoir compris quelque chose et qu'on relit le texte, quelque chose nous met à l'épreuve encore une fois. Alors, l'idée que j'ai comprise, c'est véritablement cette condamnation de l'exaltation comme une maladie de l'esprit, une passion dégénérée. En revanche, qu'est-ce qui permet à Kant de parler de cette idée incommensurable en soi de la liberté ? Pourquoi il l'appelle liberté ? Pourquoi, en fait, elle serait insondable, alors dans le sens inexplicable, d'accord, mais c'est comme si aussi lui-même, voilà, s'en sortait en disant voilà ce qui nous trouble, c'est ce qu'on a en nous. Mais qu'est-ce qui le prouve d'une certaine manière? Pourquoi il dit ça?
Alors, ce qui le prouve, ou ce qui est né d'ailleurs plutôt, parce qu'on n'est pas dans
rien,
le régime de la.
Oui.
Non, on n'est pas dans le régime de la preuve, dans la critique de la faculté de juger, mais non, ce qui en est un signe, c'est précisément que nous soyons attirés par ce qui est plus grand que nous, plus puissant que nous, par le spectacle de cela, c'est-à-dire, au fond, alors ça, évidemment, c'est l'hypothèse de Kant, si nous avons malgré tout un plaisir, malgré le déplaisir, c'est qu'il y a en nous une force de résistance, hein, d'ailleurs, il n'emploie pas ce terme, hein, une force de résistance, mais qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire l'enthousiasme, enfin plutôt l'exaltation. Bon, le terme allemand c'est Schwärmerei, c'est tout ce qui relève, disons, de l'exaltation. C'est de croire que nous sommes dans le sublime, dans le spectacle face au sublime, dans le spectacle face aux tempêtes, ou face même l'autre exemple que prend Kant, c'est le ciel étoilé, face à l'absolu. Directement face à l'absolu. Autrement dit, que l'absolu est dans ce monde, qu'il est sensible. C'est ce qu'il explique dans la phrase où il dit que l'illusion principale consiste à vouloir voir quelque chose par-delà toutes les limites de la sensibilité. Vouloir voir quelque chose par-delà les limites de la visibilité, c'est vouloir voir l'invisible. C'est-à-dire prétendre ne pas voir, prétendre accéder par la vision à ce qui excède toute vision, c'est-à-dire par exemple à ce qui n'est ni dans l'espace, ni dans le temps. Prétendre voir en quelque sorte dans la nature, dans sa puissance ou dans la nature, dans sa grandeur, l'infini. Alors ça, c'est une illusion fondamentale qui mène à l'exaltation. La leçon de Kant, c'est une leçon pour le présent, je crois. La leçon de Kant, c'est qu'il n'y a rien, malgré tout, dans la nature, qui soit sacré absolument. Quand bien même c'est à l'occasion de spectacles naturels qui semblent manifester la grande puissance de la nature, son caractère illimité, précisément parce que nous pouvons regarder ce spectacle sans nous sentir en quelque sorte réduits à néant, nous pouvons le sujet, peut le faire, eh bien, cela démontre que notre destination, elle passe par la transformation de la nature, elle passe certainement aussi par une forme d'adéquation à la nature, mais elle ne vient pas de la nature. La destination de l'homme, sa liberté, est suprasensible. Vous avez demandé tout à l'heure pourquoi la liberté. Bien précisément parce que qu'est-ce qui peut résister à la nature, à sa puissance et à sa force? Mm-hmm. L'autre de la nature. Alors là, on pourra toujours critiquer Kant, mais l'autre de la nature voulant quand même dire ce qui est déterminé par des causes, ce qui est face à nous, ce qui, d'une certaine manière, s'impose à nous, par comment, à commencer...
Les lois de la nature.
Les lois de la nature, et puis à commencer aussi d'ailleurs, et c'est pas totalement absent de la réflexion sur le sublime, bah, comme nous sommes des êtres naturels, nous sommes des êtres mortels, mm-hmm. Nous subissons, si je puis dire, cette destinée, si on peut dire. Eh bien, il y a une destinée, dit Kant, mais il y a aussi une destination. Et la destination de l'homme transcende, dépasse sa destinée ou sa condition naturelle. C'est pour cela qu'elle s'appelle liberté.
Mais comment on peut vouloir s'attaquer par une critique à tous les absolus, c'est-à-dire le fait d'absolutiser Dieu, le fait de vouloir rendre absolue la science comme cause de tout, et en même temps donner un tel pouvoir à l'homme, alors qu'on a écrit deux critiques auparavant, justement pour montrer les limites de la connaissance et de la morale?
Parce que ce n'est pas la même chose, en tout cas c'est comme cela que Kant l'envisage, et moi à sa suite, ce n'est pas la même chose de nommer l'absolue liberté, et de le nommer nature, Dieu, monde, vivant, beauté. Bon, là je prends des éléments qui apparaissent très disparates, mais dans un cas, l'absolu, s'il est connaissance, beauté, si on l'appelle Dieu, il est dans une chose, il est donné. Mmh. Je veux dire par là, il est dans l'être, voilà. Hein, c'est-à-dire, il est un être. Bon, on décide que c'est le Dieu, par exemple, ou on le réfère, même au monde, à la terre. Bon, on le désigne comme une chose, voilà. Et en général, une chose, c'est là où Kant est très précieux aussi pour, je dirais, pour le présent. Une chose, même Dieu, si l'on peut dire, qu'on réduit ici à un mot, c'est quelque chose que l'on peut maîtriser. C'est quelque chose que l'on peut, d'une certaine manière, dont on peut se revendiquer, hein, puisque bon, bah, le prêtre, c'est celui qui va se dire le spécialiste en Dieu, si je puis dire. Et puis, si l'absolu, c'est la science, alors ce sera l'expert ou le scientifique ou le savant. Bon, et Kant, c'est aussi l'auteur du petit opuscule Qu'est-ce que les Lumières, qui nous dit osez penser par vous-même plutôt que de croire le précepteur, l'expert, on dirait aujourd'hui, ou le prêtre, ou le médecin. Bon. Si vous dites l'absolu, c'est la liberté, l'inconditionné, c'est la liberté, ce qui ne souffre pas d'être relativisé, c'est la liberté, vous désignez plus l'absolu comme une chose, mais comme une action à faire. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, vous renvoyez l'absolu à ce que Kant appelle le devoir-être, plus à l'être, mais au devoir-être. Et ça, évidemment, ça change fondamentalement les choses. D'abord, ça a une importance considérable du point de vue de l'histoire de la philosophie, mais de l'histoire tout court. C'est que Kant, c'est certainement le philosophe qui a le plus contribué à faire croire, y compris peut-être avec les illusions que cela a entraînées, mais que, si je puis dire, l'essence de l'homme réside dans ce qu'il fait. C'est le penseur des Lumières par excellence, dans ce qu'il fera, au fond. L'absolu, au fond, si l'absolu, c'est la liberté, ça veut dire qu'il n'est jamais réalisé. Il n'est jamais pleinement réalisé.
On ne peut jamais l'atteindre.
De réalisation. On ne peut jamais l'atteindre et on ne peut surtout jamais prétendre l'incarner d'une certaine manière ou en être le... Voilà. Si vous voulez un exemple d'exaltation de l'esprit dont il parle dans ce texte. Bah, l'exaltation de l'esprit, ça consisterait ici à dire, par exemple, et certains le disent, ce qui est sublime, sacré, c'est notre culture. Notre civilisation, le point où nous en sommes arrivés à, disons, la manière dont nous incarnons par nos mœurs, par nos manières de penser, par nos croyances, une sorte d'absolu. Au fond, l'histoire s'arrête avec nous. Et la tendance de toutes les civilisations modernes, du moins, est certainement de penser que l'histoire s'arrête avec nous et que, par conséquent, ceux qui n'y sont pas encore accédés n'ont comme seule et unique destination, précisément, que de nous rejoindre. Mmh. Sinon, ils restent des barbares. Alors, cela, c'est déjà une manière, c'est ça le geste critique par excellence de Kant, désabsolutiser tout ce qui se trouve dans la nature, mais dans la nature il y a aussi nos sociétés, hein, pour Kant, c'est une manière de maintenir un regard critique sur nos réalisations et sur le fait que nous ne sommes jamais au bout de ce que la raison nous exige de nous.
Est-ce que c'est ça qui crée aussi un sentiment de déplaisir, de malaise, de terreur face au sublime? C'est qu'effectivement, cette liberté, elle est négative, il emploie le terme de négative, donc elle n'apparaît pas, on ne peut pas la formaliser dans un objet extérieur et on ne sait pas quelle forme lui donner. C'est une immense responsabilité qui nous pèse.
En un sens, oui, c'est un texte qui, le passage, enfin les passages sur le sublime qui ont quelque chose d'un peu par avance, un peu sartrien, si l'on veut, parce que Sartre, lui, parlera de l'expérience de la liberté, non pas comme le sublime, mais comme l'angoisse, c'est-à-dire, alors lui, il en restera au déplaisir, en un sens. Kant est plus optimiste, il dit qu'il y a quelque chose dans cette conscience de la liberté qui nous invite à l'espérance et à l'action, hein, c'est-à-dire la transformation de la nature, mais il y a un point commun, en effet, au sens où, une fois que l'on a considéré que l'absolu, c'est la liberté, évidemment, il nous vient à charge, en quelque sorte. La réalisation d'un monde plus juste, ou d'une transformation profonde des coordonnées politiques et éthiques du monde, ne peut plus être déléguée à un dieu, ne peut plus être déléguée non plus à un destin, à une providence. Elle relève de l'histoire, pour Kant, elle relève de notre propre, de l'histoire collective pour la politique et de notre propre histoire, je dirais, biographique pour la morale, mais elle relève de notre responsabilité.
Ça, c'est ça la question qui vous intéresse, Michael Fossel, qui traverse tous vos livres, vraiment la responsabilité, le poids de la liberté et ce qu'on en fait.
Le poids de la liberté, la responsabilité, sans doute, et puis le fait, alors là, de résister autant que possible à la tentation de relocaliser l'absolu dans des choses. Et ça, c'est alors si quelque chose doit, à mon avis, enfin doit, en tout cas, si je conserve moi quelque chose de la critique, la faculté de juger, c'est précisément que Kant remet sur le tard, on l'a dit, sur le métier, mais tardivement, ce thème de la critique, pour dire que, enfin pour exprimer le fait que, au fond, qu'est-ce qu'il a fait Kant avant la critique de la faculté de juger ? Il a montré que, en particulier dans la critique de la raison pure, justement, l'absolu, on ne pouvait plus en avoir une connaissance si on entend par absolu ce qu'on entendait traditionnellement, c'est-à-dire Dieu. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas de connaissance de Dieu sur le modèle de la connaissance scientifique. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et l'absolu, il a montré ensuite dans la critique de la raison pratique que si quelque chose est encore absolu, c'est-à-dire qui n'est relatif à rien d'autre qu'à soi-même, hein, c'est ça que veut dire absolu, c'est notre liberté morale, notre devoir moral, parce que le devoir moral s'impose, quelles que soient les circonstances. Bon. Eh bien, il fait une troisième critique, encore une fois, alors que ça n'était pas forcément prévu, il me semble, parce que, alors là, j'interprète, hein, ce n'est pas comme cela, évidemment, qu'il l'explicite, mais je pense qu'il a pressenti, c'est l'œuvre certainement aussi, enfin c'est le propre d'un génie de pressentir un peu, que cet absolu perdu, l'absolu perdu dans la transcendance, est récupéré dans la liberté, mais qui du coup fait peser sur, comme vous l'avez dit, sur l'individu, sur l'homme, en tout cas sur le sujet, la charge, ça n'allait pas satisfaire ni l'humanité, ni la raison, c'est-à-dire que la modernité, d'après Kant, se caractérisera, enfin qui viendra après, se caractérisera certainement par de nouvelles tentatives pour placer l'absolu ailleurs qu'en nous, en quelque sorte. Et c'est pour ça que, à mon sens, enfin c'est comme ça que je le lis, que Kant, dans cette critique de la faculté de juger, va traiter de deux thèmes apparemment sans rapport l'un avec l'autre, la beauté d'un côté, disons la vie de l'autre, le vivant, l'organisme, la biologie, on dirait peut-être. Eh bien, parce que, et ça on le constate, après Kant, au 19e, au 20e siècle, quelles ont été les tentatives, pas seulement en philosophie d'ailleurs, hélas, de resituer un absolu dans le monde. Bon, c'est en partie l'esthétique, dans le romantisme, hein, c'est-à-dire qu'au fond, le beau l'emporte désormais sur le vrai et le bien. Il y a un rapport, au fond, tout à fait essentiel aux choses données dans l'esthétique. Alors ça, c'est une option philosophique, mais elle n'est pas très grave. Une autre, qui est déjà plus problématique, sans doute, c'est de considérer que c'est la vie, c'est l'organisme lui-même qui est un absolu dans le monde, parce qu'il échappe effectivement à l'explication, à la connaissance mécanique, à la physique. C'est-à-dire de placer par exemple dans l'espèce humaine, avec évidemment Kant, c'est un philosophe qui vient, disons, à un moment, enfin historiquement, enfin du 18e, un petit peu avant la constitution de ce que deviendront ensuite les racismes philosophiques, c'est-à-dire cette tentation de placer dans la biologie elle-même, dans le vivant, des hiérarchies qui sont censées précisément donner, dans le racisme, je dirais, fondé à la Gobineau, si je puis dire, fondé biologiquement, sont censées donner un sens à notre existence et un sens politique. Alors dire que l'absolu est dans dans l'intériorité humaine, c'est déjà dire que rien dans la nature ne nous dicte un programme politique.
On va écouter un autre extrait car l'émission avance très vite.
Il est un jugement dont même l'entendement le plus commun ne peut se déprendre quand il réfléchit sur l'existence des choses dans le monde et sur l'existence du monde lui-même. Savoir que toutes les diverses créatures, de quelque ampleur que soit l'art de leur organisation, et si diverses que soient les modalités selon lesquelles elles peuvent se rapporter les unes aux autres d'après des liens de finalité, et même l'ensemble des multiples systèmes qu'elles constituent, que nous nommons de manière incorrecte des mondes, n'existeraient pour rien s'il n'y avait en eux des hommes, des êtres raisonnables en général. Autrement dit, sans les hommes, la création entière serait un simple désert, inutile et dépourvu de fin finale. Mais ce n'est pas non plus par rapport au pouvoir de connaître de l'être humain, raison théorique, que l'existence de tout le reste dans le monde obtient seulement sa valeur, par exemple pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse contempler le monde. Car si cette contemplation du monde le conduisait à se représenter rien que des choses dépourvues de fin finale, le fait que le monde soit connu ne saurait donner à son existence une valeur. Et il faut déjà lui supposer une fin finale, en relation avec laquelle la contemplation du monde elle-même puisse prendre une valeur.
Deuxième partie de la critique de la faculté de juger, critique de la faculté de juger téléologique. On en parle avec vous, Michael Fossel. Vous êtes donc en classe préparatoire, vous découvrez ce texte, sûrement cet extrait peut-être, et vous avez un choc. Ça vous semble évident?
Oui, alors c'est un... Comme j'étais en classe préparatoire, c'était mon professeur, Monsieur Fussler, que je salue, qui a certainement orienté ma lecture. Alors un choc... Ce choc, en tout cas par rapport au texte qu'on vient de lire, il serait peut-être venu plus tard, parce que, effectivement, la question se pose. Elle se posait à l'époque de Kant, semble-t-il, mais elle se pose peut-être encore plus aujourd'hui du sens de l'existence humaine en regard de la nature. Si je dis qu'elle se pose davantage aujourd'hui, évidemment, c'est que on sait bien, hélas, que l'homme, disons, l'humanité, la question est de savoir s'il faut l'appeler comme tel, a, par son action industrielle en particulier, profondément et pour le pire, transformé les coordonnées de la nature. Alors, et c'est la crise écologique et la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons. Ce que Kant ici nous dit, sans évidemment penser à cette dimension-là qu'il ne pouvait pas envisager, c'est... Est-ce que ce qui donne sens à la nature est dans la nature? Alors là, il serait peut-être en rupture avec certaines conceptions écologistes, c'est qu'il dit que ce qui donne sens à la nature, ce qui fait même d'ailleurs que sans cela, la nature serait un désert, privé d'oasis en quelque sorte. Alors, c'est l'homme, mais attention, c'est pas l'homme au sens d'une sorte justement de vertige de l'espèce humaine anthropomorphique et puissante. C'est
un
l'homme.
Un démiurge qui organiserait tout.
Voilà, le sens. C'est pas parce que l'homme transforme le monde qu'il est le sens du monde. Mmh. C'est pas parce qu'il est industrieux qu'il mérite d'être maître et possesseur de la nature. C'est l'idée d'humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'homme moral, si je puis dire, ou la liberté, c'est ce qui, dans la nature, n'est pas nature, n'est pas seulement nature. Mmh. C'est-à-dire, c'est un être, nous sommes nature, nous sommes effectivement corps, nous sommes temporalité, nous sommes espace aussi, spatialité, nous sommes amenés à disparaître à ce titre, d'ailleurs, bon. Mais l'homme témoigne dans sa destination, encore une fois, de ce que le sens de la nature peut être aussi se situer dans une forme de transformation en direction d'une plus grande justice, en quelque sorte. Donc, ce qui fait que le monde n'est pas un désert, autrement dit que nous ne sommes pas réduits au nihilisme ou au désespoir, c'est le fait que que la nature doive devenir aussi toujours un monde. Je le dirais comme cela, c'est-à-dire un espace qui soit partagé.
C'est ça, donner du sens.
Donner du sens, et cela implique aussi aujourd'hui de prendre en compte la nature, le vivant certainement, dans, sinon ses droits, du moins dans la nécessité d'un certain respect. Mais la question qui demeure hautement actuelle aujourd'hui, à mon sens, de Kant, c'est au fond, est-ce que le sens, il n'est jamais donné, ni par un dieu, ni par un programme, je dirais, de gènes, génétiques. Le sens n'est donné ni aux savants, ni aux prêtres, ni à la connaissance, ni à la foi. Le sens, il est à faire, à constituer, de manière, si possible, collective, délibérative, rationnelle, dirait Kant, et du point de vue de la transformation vers plus de justice de nos rapports sociaux et de nos rapports intimes. I had to prove that I could make it alone now, but that's not me. I wanted to show how independent I'd grown now, but that's not me. I could try to be big in the eyes of the world. What matters to me is what I could be to just. Cause I haven't been home in a long time. You needed my love, and I know that I left at the wrong time. My folks, when I wrote and told them what I was up to, said that's not me. I went through all kinds of changes, took a look at myself and said that's not me. I miss my pet and the places I've known, and every night as I lay there alone I would dream. I once had a dream, so I packed up and split for the city. Found out that my lonely life wasn't so pretty.
Cette chanson, Michael Fossel, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Emmanuel Kant, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi, mais ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, me musile l'homme sans qualité, c'est parce que je ne parviens pas à l'aimer et que je sens, pressens, que je devrais, enfin l'aimer, en tout cas y trouver de l'intérêt. Il y a tout dans ce livre pour m'intéresser précisément. L'homme sans qualité, puisque c'est aussi une réflexion, enfin une réflexion romanesque, littéraire cette fois-ci, sur la manière dont, au fond, le monde résiste un petit peu à l'ingénierie, à la possibilité de le cartographier pleinement. Il y a quelque chose dans ce personnage, même la formule, l'homme sans qualité, qui devrait m'intéresser par rapport à des questions sur qu'est-ce que c'est que cet individu pris dans la bureaucratie, l'administration, l'ingénierie, bon bref. Et alors, ça fait partie de ces livres, mais c'est pas tellement pour le livre lui-même, mais ça fait partie, disons, de ces livres sur lesquels on se dit il y a là quelque chose qui devrait me solliciter. On y revient plusieurs fois, des dizaines de fois parfois, et puis on lâche, on ne peut pas, on n'est pas pris en quelque sorte, et on s'en veut.
Et quel est le plaisir de lecture, par exemple, pour quelqu'un qui n'arrive pas à lire Kant ? Voilà, c'est on l'a dit, vous n'avez pas rebondi sur cette idée de style de Kant. Voilà, bon, Musil, c'est la littérature, c'est pas pareil. Il y a quelque chose. Voilà, qui marche pas, l'expérience de lecture ne fonctionne pas.
Pour ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas. Mais on se dit quand même qu'il faudra. Alors, bon, moi, la méthode, vous savez, je cite souvent Roland Barthes qui dit bon, ce qui est bien avec Proust, c'est qu'on ne saute jamais les mêmes passages. il est autorisé en philosophie.
Même avec une architecture aussi ficelée, mais si on saute une marche, on tombe.
Si on saute, c'est pas certain, parce que si on attend de pouvoir connaître ou de toutes les marches précisément, on n'arrive peut-être jamais au bout, parce que évidemment, ce sont des marches très, la marche est haute, si je puis dire. Alors, si on peut lire du début à la fin, bon, c'est très bien. D'abord, il y a aussi des textes qui sont plus simples que les trois critiques de Kant, qui sont plus accessibles en tous les cas. Donc, beaucoup d'opuscules. Kant avait le souci un petit peu de ce, entre guillemets, un peu plus popularisé. Bon, cela étant, effectivement, d'ailleurs, en philosophie, après tout, on pratique bien les anthologies. Il y a des passages qui méritent, qui peuvent être séparés de l'œuvre. Et encore une fois, quand on ne comprend, alors, quand je finis juste là-dessus, quand on ne comprend pas tout, On n'est pas toujours plus éloigné de la vérité du texte que quand on croit tout comprendre.
Ça, c'est important.
Voilà.
Merci beaucoup, Michael Fossel. De vous, on peut lire La Nuit, Vivre sans témoin, qui vient de reparaître aux éditions Autrement. Avec Étienne Olion, vous avez écrit Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique aux éditions du Seuil. Je cite aussi Quartier rouge, le plaisir et la gauche aux éditions PUF. Et pour lire la critique de la faculté de juger de Kant dans la traduction d'Alain Renaud, c'est aux éditions Flammarion en GF. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, Nicolas Berger à la réalisation, Grégory Wallon à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.